Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous avons véritablement un Dieu de miracles. Aujourd'hui encore, je notais dans mon agenda le témoignage d'un frère qui expliquait hier qu'il avait longtemps souffert des bras suite à son travail, qu'il devait être opéré pour cela. Et nous avons prié dans le nom du Seigneur plusieurs fois et il a été guéri sans avoir besoin d'opération. Aujourd'hui même, une sœur nous partageait le souci de son médecin le mois dernier qui voulait absolument l'envoyer à l'hôpital pour être opéré de sa jambe en très mauvais état. Mais cela n'a pas pu se faire parce que l'hôpital était débordé. Nous avons pu là aussi invoquer le nom du Seigneur avec persévérance et le docteur a constaté avec surprise et soulagement que la jambe allait beaucoup mieux et qu'il n'y avait plus besoin ni d'opération ni d'hôpital. Combien est grande la bonté et la grâce de notre Seigneur, désireux plus que jamais de guérir et surtout de sauver. Voici un témoignage. Ça remonte à plus d'un siècle, mais ce n'en est pas moins profondément instructif et même poignant. C'était un soir de printemps de l'année 1916. Donc là, c'est le lieutenant Royer qui donne ce témoignage-là. Nous revenions des tranchées de première ligne à l'est de Soissons. La journée avait été rude et au-delà de Billy-sur-Aisne, là-bas, du côté de Venizel, on entendait gronder la bataille sans fin. Nous étions fatigués, harassés, tristes aussi, car plusieurs de nos compagnons d'armes manquaient à l'appel ce soir-là. Nous marchions le dos un peu voûté, ne prenant plus garde au bruit du canon qui, sans arrêt, tonnait au loin, dans l'obscurité grandissante. La lune s'était levée, sereine, comme au soir d'autrefois. Alors, voyant que quelques-uns de mes hommes commençaient à dormir en marchant et que les autres faisaient des mines soucieuses, je voulus essayer de remonter leur morale et je me mis à chanter. Tous reprirent en chœur, puis on chercha des refrains joyeux et bientôt les rires et les quolibets se firent à mon grand plaisir entendre à nouveau dans la troupe. Seul un jeune soldat qui marchait près de moi restait morne et silencieux. Il m'était particulièrement sympathique, ce garçon très fin, à l'air modeste et doux. Il avait un joli visage, empreint de sérieux et de mystère, et il se tenait un peu à l'écart des autres, ne leur parlait jamais de son passé. Il était délicat dans ses manières et dans son langage, et ses camarades l'appelaient souvent la petite fille. Mais on le connaissait sous le nom de Benoît. Dans de longues randonnées, il s'arrangeait à marcher près de moi. Quand, dans mes conversations, j'essayais de traiter de questions morales et même religieuses, parce que devant le danger, les plus indifférents pensent au sort des âmes. Il écoutait avidement, ouvrant ses yeux bleus, tout grands d'étonnement et d'extase, comme s'il avait entrevu un coin du ciel jusqu'alors voilé pour lui. Avec cela, courageux comme un lion, on aurait dit qu'il cherchait le danger. Trois fois ce jour-là, je l'avais rappelé d'un poste avancé où il croyait devoir s'exposer. « Qu'as-tu ce soir, mon ami Benoît ? » dis-je en frappant sur son épaule amaigrie. « Tu n'as pas de mal au moins, aucun pruneau. » « Mon lieutenant, si j'en ai pas attrapé aujourd'hui, c'est bien grâce à vous, » me répondit-il d'une voix étouffée, comme en proie à une vive émotion. « Vous le savez, vous m'avez fait garer à temps plusieurs fois. Mais il faut que je vous le dise enfin, vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie à maintes reprises, mais vous avez peu à peu transformé mon âme en me montrant un idéal que j'ignorais. » Il s'arrêta un instant, l'émotion lui serrait la gorge. Allait-il me dévoiler le douloureux secret que je sentais caché au fond de son cœur ? Voyant que je respectais son silence, il reprit avec plus d'assurance. « Jamais personne ne m'a parlé comme vous le faites. Mes camarades de jeunesse prônaient dans leurs discours de la haine de la société, la vengeance, la passion des richesses qui, mal acquises, ne laissent pourtant que rancœur et désillusion. Mais vous êtes venu. Vous m'avez fait connaître celui qui, au lieu de désespérance, a parlé d'espoir, au lieu de vengeance, n'a demandé que le pardon de ceux-mêmes qui le conduisaient au supplice. Oui, dis-je, le nom du Christ éclaire notre nuit noire d'une resplendissante lumière. Oh, mon lieutenant, reprit le jeune homme à voix basse, si vous saviez comme je voudrais pouvoir effacer ma vie d'autrefois. Mais je crains encore, n'est-il vraiment pas trop tard ? Il n'est jamais trop tard pour la repentance. Les bras du Père sont toujours ouverts pour accueillir le Fils qui revient à lui. Oh, mon passé, combien il me ronge maintenant ! murmura encore Benoît. Puis le silence se refit entre nous tandis que je me demandais quel était ce passé et n'osais l'interroger. Au moment de nous séparer, « Mon lieutenant, reprit en soudain Benoît, d'une voix grave, quoi qu'on vous dise, soyez sûr que désormais je ne faillirai pas. Croyez en moi, toujours. » Et je vis briller des larmes dans ses pauvres yeux suppliants. Je lui tendis la main et répétai son dernier mot, « Toujours, mon ami. » Nous avions traversé les ruines du village et atteint les abris que nous devions occuper pour la première fois. Mes ordres donnés, avant de prendre du repos, j'allais inspecter la plupart des cagnas dans lesquels les hommes s'installaient déjà pour passer la nuit. Lorsque je pénétrais dans la cahute bizarre qui devait abriter Benoît et ses compagnons de chambrée, entre guillemets, j'entendis de gros rires. Lui et ses camarades, tout en se préparant leur couchette, inspectaient à l'aide de lumignons variés les murs couverts de dessins amusants, de caricatures grotesques et d'images dans des revues plus ou moins actuelles, trouvés probablement dans une maison du village bien approvisionnée en ce genre de publication. Tout à coup, le caporal Billard, un Parisien joyeux, avisa une photographie remarquablement nette, découpée sans doute dans un numéro de l'Illustration. Elle représentait un groupe d'affreux bandits, trop célèbres quelque temps avant la guerre par leurs attaques nocturnes à main armée, leurs pillages de banques et même leurs assassinats. « Tiens, la bande !» s'exclama le caporal. Puis, approchant son briquet, il regarda la gravure de plus près. Alors on entendit un juron formidable. « 1000 trompettes, 2 boches, hurla-t-il. Si ce type-là dans le groupe n'est pas cette sainte nitouche de Benoît, je veux bien être pendu. » Bouleversé, je regardais le portrait. Je regardais mon humble ami. Pas de doute, c'était lui. On distinguait même une petite marque foncée qu'il avait à la tempe et qui était là aussi, sur le papier fatal. Comme une minuscule tache noire accusatrice. Pauvre Benoît, quel affreux supplice il semblait endurer. Il eût certes préféré être à ce moment-là sous le feu des ennemis, plutôt que sous les coups d'œil perçants pleins de dégoût, d'horreur et de reproches qui l'accablaient. Il leva sur moi un regard de si profonde détresse qu'en un instant je compris tout, bien mieux que si je l'avais fait jusqu'ici. Sa jeunesse, sans méchanceté mais sans joie, sans principe moral, l'entraînement de sa faiblesse dans le mal par de mauvais amis, puis le remords instinctif d'un cœur qui, sous d'heureuses influences, aurait été droit et bon, puis la douleur, la honte, qui maintenant fermait sa bouche et plissait son front. Il eut un cri de défense suprême. « Je n'ai jamais, jamais tué, je ne suis pas un meurtrier !» Et son pauvre corps s'affaissa à mes pieds, secoué par des sanglots d'enfant. Alors, redevenant le chef qui veut être obéi, je lui dis d'un ton de commandement, « Soldats qui êtes ici, vous m'entendez? Vous n'avez rien vu. Je sais que ce Benoît-là est mort depuis 2 ans. » Et allant au mur, j'arrachai l'image et la déchirai en 1000 morceaux. Lorsqu'après une courte permission, quelques jours plus tard, je revins à la tranchée, la place de Benoît était vide. Le caporal Billard, les yeux mouillés, brouillés de larmes, me raconta sa fin touchante au retour d'une mission périlleuse qu'il avait sollicitée pour lui à la place d'un camarade père de famille. « Il est mort en souriant », ajouta le caporal. Au dernier moment, il a tendu les bras vers un être invisible en murmurant doucement « Mon sauveur ». Le caporal me regarda et son visage un peu gouailleur d'enfant de Paris avait à cet instant une expression nouvelle, tandis qu'il me demandait « en hésitant un peu, mon lieutenant, si vous voulez bien m'apprendre à moi aussi à mieux connaître ce sauveur. » Voilà un témoignage dans des temps difficiles, bien plus difficiles que ceux que nous vivons encore. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu, mais avant cela, nous allons prier. Te remercions, Seigneur, de ce qu'en tout temps, eh bien, tu es celui qui sauve le pécheur. Tu es celui qui l'attire à toi. Tu es celui qui veut encore lui faire grâce. Tu es celui qui veut encore faire une œuvre de transformation dans sa vie. C'est toi qui veux illuminer les cœurs, les âmes, Seigneur. Et merci parce que tu veux encore faire ton œuvre ce soir. Et tu veux encore faire saisir à chacun les grandes réalités de l'Évangile. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Rois. Au chapitre 14... et au verset 1er. Et nous voulons parler aujourd'hui à la fois du jugement de Dieu et de la grâce de Dieu. 1 Roi, chapitre 14, au verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 18. Dans ce temps-là, Abija, fils de Jéroboam, tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre ? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux des images de métal fondues pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam, comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive ? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve. Parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirtsa, et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra, et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija le prophète. Voilà, frères et sœurs, voilà, mes amis, eh bien, en effet, lorsque nous lisons ce texte, au premier abord, et pour un lecteur superficiel, il ne paraît parler que de la colère de Dieu et du jugement de Dieu sur le péché de Jéroboam et des siens. Mais pour celui qui y médite, rapidement, il y a une autre dimension qui va se révéler très largement, celle de l'amour de Dieu pour le pécheur coupable et repentant. Et ce que Dieu veut faire pour ceux qui se confient en lui. Nous pourrons voir successivement plusieurs points importants au sujet de ce texte. Voici en premier un récit dans lequel il y a des miracles. En deuxième, nous pourrons parler du péché de Jéroboam et de sa femme en cette occasion. Et en troisième, nous pourrons mettre en évidence l'épreuve de l'amour de Dieu dans cette situation. Donc en premier, voici un récit dans lequel il y a des miracles. Il y a au moins 4 miracles qui nous sont cités. Le premier, c'est que Dieu s'adresse à Achija, le prophète, pour lui révéler ce qui va se produire. et pour lui dire le message qu'il doit prononcer. N'est-ce pas une chose merveilleuse, lorsque Dieu parle aux hommes, qu'il leur révèle sa volonté? Et c'est pour cela que nous devons prendre grande attention au message de l'Écriture sainte, puisqu'il demeure le moyen par lequel Dieu s'adresse prioritairement à nos cœurs et à nos consciences, ceci pour notre salut et notre bénédiction. Le deuxième miracle, c'est celui du dévoilement de la femme de Jéroboam. On a vu ça au verset 6. Personne n'avait percé son déguisement ni ses intentions, mais dès qu'elle s'est approchée du seuil de la maison du prophète, elle n'a pas pu conserver plus longuement son apparence. Mais elle a été entièrement mise au jour pour sa plus grande confusion. Et combien ceci nous rappelle que si nous pouvons garder les apparences en présence de notre entourage, peut-être, et même peut-être tromper beaucoup de gens, il en est un qui nous connaît mieux que nous-mêmes et auquel il ne sert à rien de vouloir raconter des histoires. Le troisième miracle, c'est celui de l'annonce de la mort de l'enfant, avec ses circonstances, ce qu'on voit dans les versets 12 et 13. Il est vrai qu'il s'agit d'un miracle de jugement, mais c'est tout de même un miracle. Et nous verrons qu'il ne tenait en fait qu'à Jéroboam et son épouse pour que ce miracle soit inversé. Mais en tout cas, ceci nous montre et nous rappelle la puissance d'intervention du Seigneur en ce qui concerne la maladie. Et le quatrième miracle, c'est l'annonce du sort qui va atteindre ensuite toute la maison, toute la descendance de Jéroboam. C'est ce qu'on voit dans les versets 10 et 11. Et nous savons qu'effectivement, Jéroboam va mourir peu de temps après. Ça nous est relaté au verset 20 que nous n'avons pas lu. Et ne lèguera à son fils un règne qui ne durera que 2 ans. Chapitre 15, verset 25. Avant la destruction par Baécha de toute la lignée de Jéroboam. Ça, c'est le chapitre 15, du verset 28 au verset 30. Et voici qui nous rappelle la puissance d'intervention du Seigneur pour orienter et modeler l'avenir à sa volonté. Voilà qui nous rappelle que les prophéties divines, en particulier celles qui sont contenues dans l'Écriture sainte, ne sont pas de simples phrases, ne sont pas des mots creux, mais qu'elles se réalisent d'une manière certaine. Et que tout homme doit donc se préparer à la rencontre de son Dieu, et ainsi s'attacher à l'obéissance de la parole de Dieu, pour que les promesses de l'Écriture puissent s'accomplir pour lui. Nous avons donc bel et bien affaire à un Dieu de miracles qui peut et qui veut aujourd'hui encore accomplir des miracles dans nos vies. Que ce puisse être des miracles de bénédiction, et ceci pour chacun d'entre nous. Ceci nous amène maintenant dans notre deuxième grand point qui nous parle du péché de Jéroboam et de sa femme dans cette occasion. Alors, plusieurs aspects à ce péché, et le premier, c'est cette idée absurde de fatalisme. Voilà, ce qui est dit là, de leur initiative, nous montre qu'ils pensaient, dans les faits, que tout effort ne sert à rien. Parce qu'à leur idée, ou l'enfant doit guérir, et les efforts sont superflus puisque de toute façon il guérira, ou alors l'enfant doit mourir, et alors les efforts sont inutiles, puisque de toute manière il mourra. Et quelle folie, là encore, quelle pensée contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. On pourrait multiplier les exemples pour les montrer, ne serait-ce qu'en parlant du cas de la Tsunamite, cette femme qui a lutté avec foi pour que son enfant, déjà mort, puisse être ressuscité par la puissance de Dieu au travers du prophète. Et nous voyons que par sa lutte spirituelle, elle a obtenu cette résurrection. Ou le cas, alors ceci du temps où le Seigneur Jésus était sur la terre, de cet enfant possédé, au père duquel Jésus a reproché son incrédulité, jusqu'à ce qu'il s'écrie de tout son cœur, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et parce qu'il a ainsi prié, eh bien, il a été exaucé, son enfant a été délivré. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas faire ce genre d'effort de la foi. Ils sont prêts à laisser mourir quelqu'un, et même prêts éventuellement à se laisser mourir eux-mêmes, plutôt que de se mettre en question. Ils sont prêts à ce qu'on leur dise « la bonne aventure », entre guillemets, qui est souvent pas si bonne que ça, plutôt qu'à ce qu'on leur dise leur faute, leur devoir de repentance et d'obéissance. N'est-ce pas pour cela que beaucoup préfèrent aller consulter des spirites, des voyants, des médiums, plutôt que de venir écouter la parole de Dieu ? N'est-ce pas cela l'incrédulité ? Oui, c'est l'incrédulité du cœur qui empêche Dieu d'agir et de bénir comme il le voudrait. Comme cette incrédulité doit être rejetée et bannie. Un autre aspect de leur péché, c'est la dissimulation devant le monde. Là, je parle toujours de Jéroboam et de sa femme. Ah, il ne faut surtout pas que quiconque sache que lui, Jéroboam, a fait consulter auprès du Dieu vivant. Il est prisonnier d'un système d'idolâtrie, qu'il a d'ailleurs lui-même mis en place, et qui lui ferait subir de grands problèmes si cela se faisait connaître. Il y a tout un environnement de gens, de religieux, de politiciens, d'hommes d'affaires, de hauts fonctionnaires qui ne le supporteraient pas, sans parler de l'opinion publique. Alors il pense avoir trouvé la solution. Cachons-nous, dissimulons-nous pour garder les avantages de l'un, tout en tirant les avantages de l'autre. Gardons l'idolâtrie, avec tous les avantages de puissance, de gloire, de richesse et d'autorité que cela lui confère. Et en même temps, essayons de convaincre le Dieu vivant de faire un bon geste. Ah, le Seigneur Jésus a dit, « Nul ne peut servir Dieu maître. » Et certainement, ceux qui veulent voir Dieu agir pour eux doivent aussi se repentir d'une telle attitude. Un autre aspect de leur péché, c'est la dissimulation devant Dieu. Et voici quelque chose non seulement de coupable, mais en plus d'insensé. Car comment peut-on penser que Dieu sache ce qui va se passer dans l'avenir et en même temps imaginer que Dieu ne sache pas ce qu'il y a derrière ce déguisement? Voilà encore un exemple de la folie humaine. Et pourtant, que de gens qui se déguisent pour venir devant Dieu. Vous avez ceux qui se cachent derrière leur religion, mais qui n'ont jamais vraiment cherché Dieu. Ils n'ont jamais obéi à sa parole. Vous avez ceux qui se déguisent derrière leur respectabilité, la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes ou que d'autres ont d'eux-mêmes, mais qui n'ont jamais véritablement pensé à ce que Dieu a comme opinion à leur sujet. Vous avez ceux qui se parent de leurs bonnes œuvres en se disant que cela va convenir à Dieu, sans vouloir se souvenir de toutes leurs mauvaises pensées, de toutes leurs mauvaises actions, de tous les manques qu'ils ont eus, de tout le bien qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait, et que d'autres déguisements sous lesquels les hommes veulent se présenter devant Dieu. Ah, il n'y a que ceux qui ont rejeté toutes ces choses, l'hypocrisie, le mensonge, la dissimulation, pour s'attacher à la vérité, à la droiture de cœur, qui pourront voir la grâce de Dieu sur leur vie, être exaucés et secourus par lui. Un quatrième aspect du péché, c'est cette grande responsabilité, étant donné ce que cet homme a eu, ce que cet homme a reçu et ce qu'il a su. Que davantage le Seigneur lui a accordé. C'est d'ailleurs ce que le prophète énumère dans les versets 7 et 8. Comme il aurait dû être profondément reconnaissant. Comme tout ceci aurait dû le pousser à aimer le Seigneur, à le suivre, à le servir, plus encore qu'un autre qui n'avait pas eu tous ses avantages. Sa culpabilité est donc aggravée aux yeux du Tout-Puissant. D'où nous voyons bien l'importance de tenir compte de nos propres responsabilités. Car nous avons chacun pour notre part reçu de grands avantages de la part du Seigneur, ne serait-ce que l'existence pour commencer, ou la santé, des forces physiques. Quel privilège d'avoir une famille. Quel privilège d'avoir une capacité de raisonner. Quel privilège d'avoir une part d'intelligence. Quel privilège d'avoir dans son existence diverses occasions. Quel privilège d'avoir des biens. Quel privilège d'avoir la possibilité d'acquérir des connaissances. Et j'en passe. Et surtout, nous avons reçu, pour beaucoup d'entre nous, des avantages spirituels considérables. Lorsque nous avons reçu le témoignage de la parole de Dieu et son enseignement, quel privilège! Lorsque nous avons entendu ou vu des témoignages et des exemples de vie changés par la grâce de Dieu, lorsque nous avons eu des possibilités d'exaucement à nos prières et de protection divine, lorsque nous avons eu la connaissance de la communion avec Dieu, la possibilité de la communion les uns avec les autres dans le Seigneur, lorsque nous avons eu la connaissance du don de Christ à la croix, ce don céleste, le plus merveilleux don qui soit, celui qui surpasse la possession de royaumes et de tout ce que le monde peut offrir, qu'avons-nous fait de tout ceci? Qu'en faisons-nous? Qu'allons-nous en faire? Oh, que nous puissions chacun considérer la grandeur de notre responsabilité et que cela nous pousse à nous attacher au Seigneur de tout notre cœur. Un cinquième aspect du péché, c'est ce seul et unique désir qu'il a de sortir de son problème du moment. Tout ce qui intéresse Jéroboam, en fait, c'est d'avoir une réponse à la question qui le tourmente. Mon fils guérira-t-il de sa maladie ou ne guérira-t-il pas? C'est pour cela qu'il envoie consulter le prophète et pour rien d'autre. Ce n'est pas pour prier Dieu, ce n'est pas pour se repentir de ses péchés, ce n'est pas pour s'approcher de Dieu, ni pour chercher sa face, ce n'est pas pour faire sa volonté ou pour lui obéir, encore moins pour chercher à lui être agréable. Non, ce qu'il veut, ce n'est pas servir Dieu, c'est se servir de Dieu pour parvenir à ses fins, pour être content et soulagé dans son problème. Et voici aussi un aspect du péché de l'homme, qui n'est pas toujours facile à discerner au premier abord d'ailleurs. Voici quelqu'un qui vient aux réunions, par exemple aux réunions de l'Église, pour entendre l'Évangile, qui paraît bien disposé, qui s'approche à la position des mains, par exemple, pour qu'on prie pour lui, qui demande le secours d'en haut, qui crie même à Dieu, qui est peut-être prêt à aller plus loin encore, à faire des sacrifices pour Dieu, qui paraît prêt à prendre un engagement pour le Seigneur. Mais le voici qui, à un moment, parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, parce que les choses ne se sont pas passées comme il voulait, le voici donc qui se retire en arrière et qui peut aller jusqu'à abandonner ce Seigneur qu'il prétendait suivre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le Seigneur qu'il servait, mais lui-même. Ce n'est pas la gloire du Seigneur qu'il avait en vue, mais ses propres aises. Et Dieu ne peut pas exaucer dans bien des situations et dans bien des cas à cause de cette attitude pécheresse. Oh, comme il faut un changement de cœur pour que Dieu puisse agir dans bien des vies. Un sixième aspect encore du péché, c'est le désir de n'écouter, de n'entendre que ce qui lui plaît. Pourquoi a-t-il envoyé sa femme vers le prophète Achija spécialement, et pas vers un autre prophète de l'Éternel? Eh bien, il le dit bien, il le précise dans ce verset 2. C'est parce que c'était ce prophète-là qui lui avait dit de la part de Dieu qu'il serait roi. Il s'est dit, il a toujours été pour moi un messager de bonnes nouvelles, sûrement sera-t-il à nouveau ainsi. Ah, que d'hommes qui sont ainsi. Ils se sont éloignés de Dieu, ils se sont rebellés de diverses manières, et ensuite ils voudraient entendre de la part de Dieu que des choses agréables. Vous pouvez même trouver cela chez certains qui se disent chrétiens. C'est Matthew Henry, l'ancien commentateur du XVIIIe siècle, qui disait à ce sujet « Ils se sont eux-mêmes disqualifiés pour le réconfort par leur infidélité et ils attendent du serviteur de Dieu qu'il leur parle de paix et de réconfort. Ainsi, ils font beaucoup de mal et à leur pasteur et à eux-mêmes. » Et c'est pour de tels hommes que parle l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ah, nous avons besoin d'entendre, non pas forcément ce qui nous plaît, mais ce qui est vrai et juste, et c'est cela qui nous est salutaire. Oui, c'est alors que l'œuvre véritable du salut se fera dans nos âmes et pour l'éternité, si nous acceptons cette parole avec un cœur bien disposé. Ainsi voyons-nous divers aspects du péché de Jéroboam et de sa femme, sans préjuger d'ailleurs d'autres péchés qu'on pourrait voir facilement en examinant d'autres passages le concernant dans l'Écriture. Mais nous pouvons ainsi comprendre que le jugement soit sur sa vie, et que le jugement soit aussi sur un monde d'aujourd'hui si souvent rebelle et opposé à Dieu. Et voici notre troisième point, l'épreuve de l'amour dans cette occasion, l'épreuve de l'amour de Dieu dans cette occasion et dans cette situation. La première, c'est que Dieu envoie une maladie à cet enfant pour attirer les parents à lui. Voilà une preuve d'amour. La volonté de Dieu, la volonté première de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, Jéroboam et sa femme aussi. Et donc Dieu va tout faire pour cela. Dieu voulait aussi sauver Jéroboam et empêcher qu'il n'aille à la perdition. Dieu se disait aussi que si Jéroboam changeait et se repentait, tout le peuple, au moins une bonne partie du peuple, serait favorablement impressionné pour se diriger, se laisser incliner dans la bonne direction. Mais comment faire pour atteindre cet homme, enfermé dans sa forteresse d'incrédulité, d'endurcissement, d'idolâtrie et d'injustice ? Après avoir tourné autour du fort pour en trouver le point faible, Dieu a vu que la faille pour pouvoir s'adresser à lui était probablement son enfant. C'est donc ce moyen qu'il a choisi pour lui adresser la parole du salut. Et c'est ainsi que Dieu peut s'adresser à nous, nous touchant quelques points sensibles pour nous attirer à lui et nous rendre attentifs au message du salut, ce que nous ne ferions probablement pas autrement. Ensuite, une deuxième preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'il permet qu'il est encore en ce temps et dans cet environnement un fidèle serviteur de Dieu. Dans le verset 4, en effet, il nous est dit que dans le vieux sanctuaire abandonné de Silo, il y avait un vieil homme qui se tenait là, un homme fidèle à Dieu, comme il n'y en avait plus beaucoup en Israël. Un homme que Dieu aurait pu rappeler à lui pour l'accueillir et l'honorer dans sa gloire à cause de son service fidèle. Un homme qui avait les yeux fixes. Mais cela l'aidait à garder les yeux intérieurs, fixés sur la gloire de Dieu et à rester toujours en communion avec son Seigneur. Quel précieux cadeau qu'un tel homme! Quelle preuve de la bonté et de l'amour de Dieu d'avoir laissé un tel homme en Israël jusqu'à ce moment-là. Oh, jamais assez, je ne pourrais bénir le Seigneur du privilège d'avoir ainsi rencontré un homme de Dieu, un serviteur de Dieu fidèle, fidèle dans le message, dans la doctrine, dans le témoignage et dans le service. Oh, réalisez le privilège d'avoir des serviteurs de Dieu. Attachez-vous à eux, à leur message, à leur parole, à leur exemple et à leur prédication. Et voici la troisième preuve de l'amour du Seigneur, c'est le dévoilement de la femme de Jéroboam. Vous savez, Dieu aurait pu simplement la laisser faire, en la renvoyant à vide, en faisant dire au prophète qu'il n'avait pas de message pour elle. Mais Dieu prend soin de la faire avertir, de lui montrer la vanité de la dissimulation devant lui, de la nécessité de la vérité, de la sincérité. Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? S'il prend tant de peine à s'occuper de Jéroboam et de son épouse, n'est-ce pas qu'il éprouve encore quelque chose pour eux ? N'est-ce pas que dans son amour, il veut prévenir le malheur qui les menace ? Et bien en quatrième, Dieu lui annonce le jugement qui va se produire, non seulement sur l'enfant, mais sur lui-même et sur tous les siens. Versets 10 et 11. Voilà encore une preuve d'amour, c'est qu'il les prévient. Le grand Dieu des cieux, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, s'abaisse à prévenir un vermisseau rebelle. Quelle autre explication sinon celle de l'amour ? Cet amour qui espère que cela va le pousser à changer de conduite et à venir à la repentance et au salut. Et aujourd'hui encore, Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il s'est choisi, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans les Actes des Apôtres. Et avant ce jugement ultime, Dieu annonce toutes sortes de jugements, toutes sortes de châtiments qui sont prophétisés, mais un luxe de détails qui indique de plus en plus notre proche avenir. Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Pourquoi Dieu prévient-il ainsi ? C'est à cause de son amour pour ses pécheurs qu'il veut sauver aujourd'hui encore. Et puis remarquez au verset 12 que Dieu laisse comprendre à cette femme le moyen d'éviter cette mort immédiate. Il est marqué « Dès que tes pieds entreront dans la ville ». Quel était donc le moyen de la foi ? Que fallait-il qu'elle fasse si elle avait la foi ? Tout simplement, rester en dehors de la ville. la vie de son enfance serait en sursis. Faire appeler son mari à l'extérieur de la ville, lui expliquer ce que le prophète avait dit, le mettre au courant du message de Dieu, l'exhorter à se repentir, à croire à Dieu, croire au Seigneur, crier à Dieu, se détourner des idoles et retourner avec lui, voir Achija le prophète, pour qu'il prie pour l'enfant. Ah, Dieu qui a vu des pécheurs se repentir, ne s'est-il pas alors aussi repenti du jugement qu'il avait envoyé sur eux? Et ceci est arrivé bien des fois. Saisissons aujourd'hui les moyens de foi que nous donne la parole de Dieu pour que tout jugement soit ôté de notre vie et que Dieu agisse misérablement et favorablement pour nous. La sixième preuve de l'amour de Dieu, c'est cet exemple qu'il lui montre. L'exemple du petit enfant, lui indiquant par cela même le chemin à suivre. Verset 13. Car Dieu ne donne pas un ordre, mais indique les moyens pour le réaliser. Dieu ne nous montre pas un but à atteindre sans nous indiquer comment y parvenir, sans nous donner toutes les indications pour le trajet, sans même nous accompagner lui-même pour nous guider.